Le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour, le monde hébreu se recueille aujourd'hui pour commémorer le premier anniversaire du massacre commis par le Hamas. Depuis cette attaque qui a touché Israël, les communautés juives en Suisse aussi enregistrent une hausse de l'antisémitisme. C'est une mesure qui pourrait limiter le covoiturage. Depuis la mise en place de rodateurs à Glovelier à la Halle des Fêtes, il faut payer 5 francs par jour pour laisser sa voiture et profiter du véhicule d'une autre personne. Un coup d'œil dans les vergers, vous aurez remarqué que les pommiers et poiriers ont été prolifiques cette année. Pour tirer parti de ces fruits, de nombreux jurassiens se rendent dans les pressoirs. Reportage en fin d'édition. Les premières averses sont attendues ce soir. Demain, il devrait pleuvoir abondamment. Le soleil aussi sera aux abonnés absents et le mercure affichera au mieux 15 degrés. La Suisse aussi commémore la journée tragique du 7 octobre 2023. La Fédération suisse des communautés israélites se souvient dans la douleur et le recueillement des massacres terroristes du Hamas en Israël. Une célébration s'est tenue hier à la synagogue de Berne et c'est à Zurich en ce moment. Depuis cette date, les quelques 18 000 juifs qui vivent en Suisse sont victimes d'un net renforcement de l'antisémitisme. Le président de la Fédération suisse des communautés israélites, Ralph Friedländer.
Dès le lendemain du 7 octobre, il y a déjà eu une augmentation des actes antisémites en Suisse. Il y a à peu près 3 fois plus de cas en général et dans les cas d'agression physique, même 10 fois plus. Et nous avons eu l'attaque au couteau à Zurich, nous avons eu plusieurs tentatives d'incendier des synagogues, donc beaucoup de violence verbale aussi et beaucoup de discours de haine sur les réseaux sociaux. Effectivement, on est confronté malheureusement à une véritable vague d'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Alors, il faut certainement faire encore davantage pour lutter contre l'antisémitisme en Suisse. Dans les écoles, il faut faire plus aussi dans les universités et en général, informer mieux la population.
La Confédération élabore en ce moment une stratégie de lutte contre l'antisémitisme. Des manquements dans les hôpitaux suisses, c'est ce qu'a constaté Swissmedic l'an dernier lors de ses inspections annuelles dans 25 des 280 établissements du pays. L'autorité de contrôle souligne aujourd'hui dans un communiqué un besoin d'action, notamment dans la gestion de la qualité, dans la maintenance et dans la formation du personnel. Des problématiques déjà identifiées il y a quelques années, Swissmedic regrette un manque d'amélioration significative. La première mission de défense planétaire est lancée. La sonde ERA de l'Agence spatiale européenne a décollé à 16h52 heure suisse de Cap Canaveral à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Selon la retransmission en direct, l'Université de Berne y participe et explique que cette mission doit contribuer à comprendre comment dévie un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre. Une ancienne cadre d'un home de la région de Moutier a été blanchie par la justice en fin de journée. On lui reprochait d'avoir empêché des résidents de voter lors du scrutin du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville en dissimulant les bulletins de vote. Une accusation de fraude électorale que le tribunal n'a pas suivie, Olivier Zano.
C'est un article publié en janvier 2019 dans le Jura Libre qui avait mis le feu aux poudres. On y pointait du doigt une responsable des soins du home en question, prétendument douée pour la captation de suffrages. Accusation appuyée ensuite par une ancienne collaboratrice de l'établissement. Celle-ci aurait dû témoigner ce lundi devant le juge Jocelyn Richard à Moutier. Elle s'est désistée 30 minutes avant l'audience pour cause de maladie. Mais revenons-en à l'acte d'accusation. La prévenue, connue pour son engagement contre le transfert de Moutier dans le Jura, y est donc accusée de fraude électorale. Pour faire court, elle aurait fait récupérer par des subordonnés des bulletins de vote de résidents sans en avertir la direction, et ceci pour les mettre en sécurité. Tout ça alors que ces personnes avaient manifesté leur intention de voter. Des résidents qui, selon le procureur, avaient des problèmes cognitifs et qui auraient pu ne plus repenser à voter par la suite. Une version démontée par l'avocat de la défense. Il a rappelé, témoignage à l'appui, la parfaite éthique de travail de sa cliente. Elle avait observé la disparition d'un bulletin et n'a fait que demander à son équipe de proposer aux résidents qui le souhaitaient de mettre leur bulletin de vote en sécurité dans un coffre-fort placé au secrétariat jusqu'à ce que ces personnes émettent le souhait de voter éventuellement avec l'appui de leur famille. On ne sait pas combien de bulletins, peut-être 2 ou 3, on ne sait pas si les concernés ont voté ou non finalement et ce qu'ils ont voté. Maître Grégoire Aubry n'a fait qu'insister sur ce point. Les résidents ont donné leur accord, leur instruction. Des personnes âgées qui avaient le droit de vote, parfaitement souveraines, en totale capacité de discernement et de qualifier de pur fantasme l'allusion du ministère public à une diminution des facultés cognitives des résidents concernés.
Le tribunal a donc acquitté la prévenue. Les frais de procédure sont à la charge du canton de Berne. Un nouveau médecin cantonal a été nommé dans le Jura. Le gouvernement a indiqué ce matin que Mathieu Vermeil va succéder au docteur Antonios Liolios. Le Brun-Trutin entrera en fonction le 1er novembre prochain à 60% puis à 80% un mois plus tard. Les places de covoiturage sont désormais payantes à Glovelier. La commune de Haute-Saône a récemment décidé de poser des horodateurs sur plusieurs zones de stationnement aux abords de la halle polyvalente et du terrain de football. Le parking utilisé par les personnes qui partagent une voiture pour aller travailler n'est donc plus gratuit, ce qui fait grincer quelques dents. Les explications du maire de Haute-Saône, Éric Dobler.
Ça va rester le parking de covoiturage, mais on est actuellement dans une phase de transition parce qu'on vient d'instaurer ce système de rodateur et puis il y a des réglages à apporter par rapport à l'implantation de ce parking, effectivement, notamment au niveau des tarifs, effectivement, qu'il faudra appliquer.
Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un qui fait du covoiturage doit quand même payer plein pot pour laisser sa voiture là.
Alors effectivement, le montant est de 5 francs par jour. Donc voilà, pour faire du covoiturage, on estime que c'est un montant qui est supportable, mais effectivement, il faut qu'on l'évalue. Et puis pour le moment, on vient de mettre en place le dispositif et ça va nécessiter certaines adaptations.
Contacter le service cantonal de la mobilité indique qu'il s'agit d'un parking communal et qu'il ne dispose donc d'aucune marge de manœuvre pour imposer la gratuité. Les travaux de construction du nouveau complexe scolaire de Courtaitel débuteront début décembre. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la commission de construction dans un communiqué. Les élèves et les sociétés locales ne prendront toutefois possession du nouvel écrin qu'en janvier 2027, soit 6 mois plus tard que prévu, en cause un déficit de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. La commission indique que cet allongement du délai n'aura pas de conséquences sur l'enseignement et n'engendrera pas de frais supplémentaires. Plusieurs règlements sont présentés devant l'Assemblée communale ce soir aux Enfers. Les citoyens devront se prononcer sur l'approvisionnement en eau potable, sur le texte concernant l'évacuation des eaux usées et enfin sur celui des élections. Un quatrième document sera présenté sur les inhumations et le cimetière des communes de Montfaucon et des Enfers. Kourou se prépare à vivre un événement doublement rare dans la région. La fanfare de l'école de recrues 16-2 donnera un concert de gala vendredi soir à la halle de gymnastique du village. La formation comprend 80 musiciens. Le concert donnera également lieu à la remise du prestigieux prix Stéphane Yegui à un enfant de Kourou, Patrick Robatel. La distinction récompense l'engagement d'un musicien en faveur de la musique avant en Suisse. La fanfare de l'école de recrues 16-2 ne se contentera pas de se produire sur scène à Kourou, comme l'explique le maire du village, Philippe Membré.
La fanfare d'école de recrues sera présente à Kourou dès le matin pour faire une prestation en forme de workshop et d'atelier avec les écoles, avec l'école primaire de Kourou et avec l'école secondaire du Valterbi. Cela durant toute la journée du vendredi et le soir avec ce concert de gala et la remise de ce prix Stéphane Yegui. C'est la crème des jeunes musiciens sur le plan national. C'est également une formation très imposante puisqu'il y a 60 souffleurs, 8 percussionnistes, il y a 10 tambours, il y a même également 2 guitaristes et un joueur d'accordéon suissois. Donc vous voyez que la formation est très imposante pour ce concert de gala.
Tellement imposante, je crois qu'il a fallu faire des aménagements un peu spéciaux à la halle de gymnastique.
Alors effectivement, l'armée viendra déjà le jeudi monter une infrastructure un petit peu particulière d'agrandissement de la scène. Notre scène étant malheureusement trop petite pour pouvoir accueillir un ensemble aussi imposant.
Des propos recueillis par François Comte. Le concert de la fanfare de l'école de recrues 16-2 aura donc lieu vendredi soir dès 19h30 à la halle de gymnastique de Kourou. L'entrée sera gratuite. Les pressoirs de la région tournent à plein régime. La récolte de pommes est particulièrement importante cette année avec une spécificité. Les fruits ont tendance à ne pas bien se conserver, d'où l'intérêt de faire appel aux cidreries pour les transformer en jus. Une fois pasteurisé, celui-ci tiendra plus d'une année. À Courandelin, ce sont les membres de la société d'arboriculture qui gèrent le pressoir. Visite des installations avec le secrétaire Daniel Rez.
C'est une grande année. Dame Nature a été généreuse. Avec la quantité, je ne sais pas si les pommes vont se garder. C'est pour ça que les gens qui ont commencé dans cave, ils remarquent qu'elles pourrissent, alors ils viennent les presser.
En quantité, vous faites combien par jour cette année?
On fait environ entre 2 et 3 000 litres par jour maintenant.
On ne peut pas tout mettre, hein?
C'est vos pommes, là, madame?
Oui, une grande partie aussi, celle d'un voisin.
Vous avez combien d'arbres?
Alors moi j'en ai 2 et puis le voisin il en a 3.
Donc vous avez vu les pommes arriver ici, Et là, elles sont emmenées par une vis sans fin, la vis d'Archimède.
Elles montent dans ce cylindre.
Elles montent jusque-là, et puis avec le, comme elles tournent comme ça, avec la force, elles passent à travers des couteaux, elles sont hachées, puis ça donne ce pépé-là. C'est du pépé. Vous voyez là, c'est comme des lasagnes, alors ils s'y mettent un cadre en bois, une toile, un cadre en bois, une toile, jusqu'en haut, et puis après, ça passe sous la presse, qui presse 18 tonnes au mètre carré. Après, on tire ça dans des cubes, une cuve par client. Comme ça, le client a toujours son jus, son propre jus à lui. Puis après, ça passe à la pasteurisation. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la pasteurisation.
Allons-y, je vous suis. Oui. Bonjour, madame. Voilà. Alors, est-ce que c'est la chef de la pasteurisation qui explique un peu le processus?
Elle est en train de faire des bonbonnes, là. Ouais. Ça devient de plus en plus rare, ça. C'est ce qu'on faisait... Entièrement, il y a 30 ans, hein, on faisait que ça. Hein.
Donc c'est aussi un système où après, en bas de la bonbonne, il y a un petit robinet. Pour...
Oui, on le voit là, on le chauffe avec cet appareil.
Ah, c'est chauffé directement dans la bonbonne?
Oui, dans la bonbonne, avec un appareil à pasteur.
Et cette opération-là, elle prend combien de temps?
C'est 25 litres, ça fait 15 minutes.
Alors ici, c'est les plus petits formats, donc.
Oui, alors ici, on fait des 5 litres et des 10 litres. Les jus passent dans cette
machine. Ah ouais, là, ça vient directement de la cuve.
Ça chauffe instantanément. Et puis ça arrive dans la cuve du haut. Et puis on peut tirer directement dans les
sachets.
Outres en plastique. On fait à peu près du 500 litres à l'heure.
Et un reportage à la cidrerie de Courant de l'Ain réalisé par Léonie Adrover.
RFJ, il est 18h13.
Sport. Enquête de renfort étranger. Le HC Ajoie a dégoté la nuit dernière un défenseur finlandais, Anthony Honka, 24 ans, est prêté au club jurassien de National League par la franchise NHL de Carolina Hurricanes. Après un début de saison catastrophique avec 7 défaites et une première victoire samedi dernier, le HC avait annoncé sa volonté de recruter 2 joueurs. C'est donc le secteur défensif qui se trouve renforcé en premier lieu, Jérémy Pignard.
Ajoie était l'une des rares écuries de National League à n'avoir qu'un seul défenseur étranger dans son effectif. Le club jurassien pourra en aligner 2 dès vendredi à Zurich. Arrivé ce lundi en Suisse, Anthony Honka pourra s'entraîner dès demain avec ses nouveaux coéquipiers. Déjà prêt physiquement, car il sort du camp de pré-saison avec Carolina. Le directeur sportif à Joulot, Julien Vauclair, connaît et suit le joueur depuis longtemps. Il lorgnait sur une éventuelle libération du joueur par son club, ce qui s'est produit ces dernières heures avec un écrémage au sein de la franchise américaine. Défenseur porté vers l'offensive, Honka n'a jamais joué en NHL. Drafté en 2019, il a connu une année en AHL, mais a surtout joué en Finlande dans son club formateur de Jyväskylä. Barré dans la meilleure ligue du monde, il cherchait le meilleur championnat possible. La Suisse en fait forcément partie, souffle Julien Vauclair. Anthony Honka devrait étrenner son nouveau maillot dès ce week-end et pourrait même affronter dès samedi son frère Julius, qui joue à Davos.
Le HC Ajoie est encore à la recherche d'un attaquant. Julien Vauclair évoque des touches qui pourraient aboutir ces prochaines heures ou prochains jours selon les mouvements du marché. L'équipe de Suisse de football devra se passer de Denis Zakaria et Béchir Omeragic. Le milieu de Monaco et le défenseur de Montpellier sont blessés et ont dû déclarer forfait pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations. Le défenseur de Valladolid et Ray Tchumert a été appelé en renfort. La Nati se déplacera en Serbie samedi et recevra le Danemark à Saint-Gall. Ce sera mardi prochain. C'était le 2e artiste de la grande équipe des Pays-Bas aux côtés de Johan Cruyff. L'ancien milieu de terrain Johan Niskens est décédé hier à l'âge de 73 ans. Annonce faite aujourd'hui par la Fédération néerlandaise de football qui regrette la perte d'une légende. Lieutenant de Cruyff, parfois surnommé Johan II, il faisait partie de l'équipe de l'Ajax qui a remporté 3 fois la Coupe d'Europe consécutive au début des années 70. Il a aussi disputé 2 finales de Coupe du Monde en 1974 et 1978 avec les Pays-Bas. Et je vous souhaite une très belle soirée.